Chapitre 10. Marie Salade était déjà en convalescence, comme si la nature eût voulu récompenser l'excellente méthode de traitement de Stein et les soins charitables de la bonne tante Marie. Elle s'était habillée convenablement et ses cheveux bien peignés et relevés en chignon derrière la tête faisaient honneur aux ailes de Dolorès qui s'était chargée de la coiffer. Un jour que Stein était occupé à lire dans sa chambre, dont la petite fenêtre donnait sur la grande cour où jouaient en ce moment les enfants avec Marie Salade, il entendit celle-ci se mettre à imiter le chant des oiseaux avec une telle perfection qu'il suspendit sa lecture pour admirer un talent si extraordinaire. Peu après, les enfants commencèrent un de ces jeux si communs en Espagne dans lesquels on chante en même temps. Marie Salade a joué le rôle de mère, Pepa celui d'un cavalier qui venait lui demander la main de sa fille. La mère la refuse, le cavalier veut employer la force pour s'emparer de la jeune fille, et tout ce dialogue se compose de couplets chantés sur un air dont la mélodie est extrêmement agréable. Le livre tomba des mains de Stein. Comme tout bon Allemand, il adorait la musique et jamais voix aussi belle n'était arrivée à ses oreilles. C'était un métal pur et solide comme le cristal, doux et flexible comme la soie. Stein osait à peine respirer dans la crainte de perdre la moindre note. « Vous voudriez devenir tout oreille ?» dit la tante Maria, qui était entrée sans qu'il l'eût vue. « Ne vous ai-je pas dit que c'était un oiseau des Canaries sans cage ? Vous verrez !» Puis elle alla dans la cour et demanda à Marie Salade de chanter une chanson. Celle-ci, avec sa maussaderie habituelle, s'y refusa. En ce moment arriva Momo, de mauvaise humeur, précédé d'hirondelles chargées de charbon de bois. Il avait les mains et le visage barbouillés et noirs comme de l'encre. « Le roi Melchior !» cria Marie Salade en l'apercevant. « Le roi Melchior ! Le roi Melchior !» répétèrent les enfants. « Si je n'avais pas autre chose à faire, dit Momo furieux, que de chanter et de danser comme toi, grande fainéante, je ne serais pas barbouillée des pieds à la tête. Heureusement, Don Frédéric t'a défendu de chanter. Comme cela, tu ne me blesseras pas les oreilles. » Marie Salade répondit en entonnant une chanson à plein gosier. Le peuple andalou possède une grande quantité de chants, les uns tristes, les autres gais, l'ole, la fandango, la canne, aussi gracieuse que difficile à chanter, et d'autres ayant leur nom particulier, et parmi lesquels se distingue la romance. L'air de la romance est un peu monotone, et nous n'oserions affirmer que, mise en musique, elle satisferait les dilettanti. Mais son agrément, pour ne pas dire son charme, consiste dans les modulations de la voix qui la chante, dans la manière dont certaines notes se tamisent, pour ainsi dire, et se balancent suavement, baissant, montant, augmentant le son ou le laissant mourir. Aussi la romance, dont l'air est composé d'un très petit nombre de notes, est très difficile à chanter bien et sans altération. Elle appartient si spécialement au bas-peuple que nous ne l'avons jamais entendue chanter dans la perfection qu'à des gens de cette classe, et encore à un très petit nombre d'entre eux seulement. Il semble que ceux qui y réussissent le font comme par intuition, sans effort. Lorsqu'à la chute du jour, on entend de loin dans la campagne une belle voix chanter une romance pleine de mélancolie et d'originalité, elle fait un effet extraordinaire. Nous ne pouvons le comparer qu'à celui que produit en Allemagne le son du cor des postillons quand il vibre, doucement répété par les échos au milieu de forêts magnifiques et de lacs délicieux. Le sujet de la romance est le plus souvent emprunté à l'histoire des Maures ou porte sur de pieuses légendes ou des histoires de brigands. Cette fameuse et antique romance, qui a passé de père en fils jusqu'à nous comme une tradition mélodieuse, a eu plus de durée, avec son petit nombre de notes confiées à l'oreille, que les grandeurs de l'Espagne appuyées sur les canons et soutenues par les mines du Pérou. Du reste, le peuple possède des chansons charmantes et pleines d'expressions dont l'air a été composé pour les paroles, ce qui n'existe pas pour celles que nous avons mentionnées plus haut, pour celles auxquelles s'adapte cette quantité de couplets dont chacun garde un riche répertoire au fond de sa mémoire. Marie Salade a chanté une de ces chansons que nous transcrirons ici dans toute sa simplicité et son énergie populaire. Il y avait un jeune cavalier dans l'île de Léon. Il s'énamoura d'une dame qui partagea son amour avec l'arétin, avec l'aréton. « Seigneur, restez un jour ou deux, car mon mari est allé dans ces montagnes bénies avec l'arétin, etc. » Pendant qu'il lui faisait la cour, le mari arriva. « Ouvre-moi la porte, ciel, ouvre-moi la porte, sol, avec l'arétin, etc. » Elle a descendu l'escalier, toute pâle de frayeur. « As-tu la fièvre ou un nouvel amour, avec l'arétin, etc. » « Je n'ai pas eu la fièvre ni un nouvel amour, mais j'ai perdu la clé de ton riche appartement avec l'arétin, etc. Si tes clés sont d'acier, les miennes sont en or. À qui est le cheval qui vient de hennir dans l'écurie avec l'arétin, etc. C'est le tien, mon doux seigneur, car mon père l'a envoyé pour que tu ailles à la noce de ma sœur aînée avec l'arétin, etc. » Que ton père vive 1000 ans, je ne manque pas de chevaux. À qui donc est l'espingole suspendue à ce clou, avec l'arétin, etc. Elle est à toi, mon doux seigneur, car mon père l'a envoyée pour te conduire à la noce de ma sœur aînée, avec l'arétin, etc. Que ton père vive 1000 ans, je ne manque pas d'espingole. Quel est l'audacieux qui s'est introduit chez moi, avec l'arétin, etc. C'est une de mes petites sœurs que mon père a envoyée pour me conduire à la noce de ma sœur aînée, avec l'arétin, etc. Il l'a saisie par la main et l'a conduite à son père. « Père, reprends ta fille qui m'a fait trahison, avec l'arétin, etc. Emmène-la, toi, mon gendre, car l'Église te l'a donnée. » Il la saisit par la main et l'emmène dans un champ, avec l'arétin, etc. Il lui donna 3 coups de poignard et la laissa morte sur place. La dame mourut à 1 heure, le galant mourut à 2 heures, avec l'arétin, etc. À peine eut-elle fini de chanter que Stein, qui avait une excellente oreille, prit sa flûte et répéta note pour note l'air qu'il venait d'entendre. Saisie de surprise et d'admiration, Marie Salade se mit à tourner la tête de tous côtés comme si elle cherchait d'où partait cet écho si fidèle. « Ce n'est pas un écho !» crièrent les enfants. « C'est Don Frédéric qui souffle dans un bâton percé de trous !» Marie entra précipitamment dans la chambre où se trouvait Stein et se mit à l'écouter avec la plus grande attention, se penchant en avant, le sourire aux lèvres et mettant toute son âme dans ses yeux. Depuis ce moment, la rude grossièreté de Marie Salade se changea en Verstein, en confiance et en une certaine docilité qui causa le plus grand étonnement à toute la famille. La tante Marie, pleine de joie, conseilla à Stein de profiter de l'ascendant qu'il exerçait sur la jeune fille pour lui persuader de s'habituer à bien employer son temps en apprenant la loi de Dieu et à travailler pour devenir une bonne chrétienne et une femme raisonnable, destinée à devenir une mère de famille, attachée à son ménage. La bonne vieille ajouta que, pour atteindre le but qu'on se proposait, comme pour dompter le caractère orgueilleux et détruire les habitudes sauvages de Marie Salade, le mieux serait de prier Dame Rosita, la maîtresse d'école, de s'en charger, vu que la dite maîtresse était une femme sensée, craignant Dieu et très habile dans les travaux manuels. Stein approuva beaucoup cette proposition et obtint de Marie Salade qu'elle se prêtât à le mettre à exécution, lui promettant en retour d'aller la voir tous les jours et de la divertir avec sa flûte. Les dispositions que cet enfant avait pour la musique firent naître en elle un attrait extraordinaire pour l'étude de cet art, et ce fut l'habileté de Stein qui lui donna la première impulsion. Quand Momo apprit que Marie Salade allait se mettre sous la direction de Rosa Mystica pour apprendre à coudre, à balayer et à faire la cuisine, et surtout, comme il disait, pour apprendre à avoir du jugement, et que c'était le docteur qui l'avait décidé à cela, il dit que cela lui rappelait ce que le docteur lui avait raconté de ce qui se passait dans son pays, à savoir qu'il y avait certains hommes que toutes les souris suivaient quand ils se mettaient à jouer du fifre. Depuis la mort de sa mère, Dame Rose avait établi une institution de jeunes filles qu'on appelle dans les villages « école » et dans les villes « académie », non plus à la mode. Les jeunes filles dans les villages y sont retenues depuis le matin jusqu'à midi et on n'y enseigne que la doctrine chrétienne et la couture. Dans les villes, elles apprennent la lecture, l'écriture, la broderie et le dessin. Il est évident que ces établissements ne peuvent créer des puits de science, ni des pépinières d'artistes, ni des modèles d'éducation correspondant au nom de femmes émancipées. Mais en échange, il en sort habituellement des femmes laborieuses et d'excellentes mères de famille, ce qui vaut beaucoup mieux. Une fois que la malade fut rétablie, Stein exigea de son père qu'il la confiât à l'excellente femme qui devait remplacer, auprès de cette créature indomptée, la mère qu'elle avait perdue et lui enseigner les obligations de son sexe. Quand on proposa à Dame Rosa d'admettre dans sa maison la fille du pêcheur, sa première réponse fut un refus formel, comme font en pareil cas les personnes de son caractère. Mais elle finit par céder quand on lui donna à entendre les bons effets qui pourraient naître de cette œuvre de charité. C'est ainsi qu'agissent, en pareilles circonstances, les personnes pieuses pour lesquelles le devoir n'est pas une chose de convention, mais une ligne droite tracée d'une main ferme. Il serait impossible de dire ce que souffrit la pauvre femme pendant le temps qu'elle fut chargée de Marie Salade. D'une part, les moqueries et les révoltes ne cessaient pas, de l'autre, les sermons sans profit et les exhortations sans succès. Deux incidents épuisèrent la patience de Dame Rose, et avec d'autant plus de raison que chez elle, ce n'était pas une vertu innée, mais laborieusement acquise. Marie Salade avait réussi à former une sorte de conspiration dans le bataillon que commandait Dame Rose. Cette conspiration finit par éclater un beau jour, d'abord timide et hésitante, puis hardie et la tête levée. Voici ce qui arriva. « Je n'aime pas les roses à la livre !» dit soudainement Marie Salade. « Silence !» commanda la maîtresse, dont la discipline sévère défendait qu'on parlât pendant les heures de classe. Le silence se rétablit. 5 minutes après, on entendit une voix perçante qui disait insolemment « Je n'aime pas les roses lunaires !»« Personne ne te le demande !» dit Dame Rosa, pensant que cette déclaration intempestive avait été provoquée par celle de Marie Salade. 5 minutes plus tard, une autre des conjurées dit en ramassant son dé qui était tombé « Moi, je n'aime pas les roses blanches !»« Qu'est-ce que cela veut dire ?» cria alors Rosa Mystica, dont le petit œil noir jetait des feux comme un phare. « Vous moquez-vous de moi ?»« Je n'aime pas les roses de Pitiminy !» dit une des plus petites en se cachant immédiatement après sous la table. « Ni moi les roses de la Passion, ni moi les roses de Jéricho, ni moi les roses jaunes !» La voix forte et claire de Marie Salade couvrit toutes les autres en criant « Je ne puis voir les roses sèches !»« Les roses sèches, je ne puis les voir !» crièrent en chœur toutes les jeunes filles. Rosa Mystica, qui au commencement avait été plongée dans la stupéfaction, voyant ensuite une telle insolence, se leva, courut à la cuisine et en revint armée d'un balai. En l'apercevant, toutes les écolières s'enfuirent comme une bande d'oiseaux. Rosa Mystica, restée seule, laissa tomber son balai et se croisa les bras. « Patience, mon Dieu !» s'écria-t-elle, après avoir fait tout son possible pour se calmer. « Je supportais avec résignation mon sobriquet comme tu as supporté ta croix, mais il me manquait encore cette couronne d'épines. Que ta sainte volonté soit faite !» Peut-être aurait-elle pardonné à Marie Salade dans cette circonstance s'il ne s'en était pas bientôt présenté une autre qui l'obligea enfin à prendre la résolution de la congédier une bonne fois. Il arriva que le fils du barbier, Ramon Pérez, grand joueur de guitare, venait toutes les nuits en jouer et chanter des couplets sous les fenêtres sévèrement fermées de la dévote. « Don Modesto, dit-elle un jour à son hôte, quand vous entendrez le soir cet oiseau de nuit de Ramon nous déchirer les oreilles, faites-moi le plaisir de sortir et de lui dire d'aller faire de la musique ailleurs. » « Mais Rosita, répondit Don Modesto, voulez-vous que je me fâche avec ce garçon quand son père, que Dieu l'en récompense, me rase gratuitement depuis mon arrivée à Villamar? Et puis, voyez ce que c'est. J'aime à l'entendre, moi, car on ne peut nier qu'il joue de la guitare et qu'il chante parfaitement. « Grand bien vous fasse, dit Dame Rose. Il est possible que vous ayez les oreilles à l'épreuve de la bombe, mais si cela vous plaît, cela ne me plaît pas à moi. » Cette idée de venir chanter devant la maison d'une femme honnête ne lui fait pas honneur et n'a pas de raison. » La physionomie de Don Modesto fit une réponse muette qu'on peut diviser en trois parties. D'abord, elle exprima l'étonnement et semblait dire « Eh quoi, Ramon fait la cour à ma gouvernante ?» En second lieu, le doute, comme s'il eût dit « Est-ce possible ?» En troisième lieu, la certitude qui s'exprimerait par ces mots, « C'est certain, Ramon est un effronté. » Après avoir réfléchi, Dame Rose continua. « Vous pourriez vous enrhumer en passant de la chaleur de votre lit à la fraîcheur de l'air extérieur. Il vaut mieux que vous restiez tranquille et que je dise moi-même à un pareil braillard que s'il veut s'amuser, il aille chercher fortune ailleurs. » Quand minuit sonna, on entendit le son d'une guitare, puis une voix qui chantait « Le teint de ma brune vaut mieux que la blancheur d'un lys. »« Quelle folie !» s'écria Rosa Mystica en se levant de son lit. « Il sera long, le compte qu'il aura à rendre à Dieu de tant de vaines paroles. » La voix poursuivit en chantant. « Jeune fille, quand tu vas à la messe, l'église resplendit d'un nouvel éclat. » L'herbe fanée que ton pied foule en te voyant reverdit. Dieu nous protège, s'écria Rose en passant un jupon. Voilà qu'il tire comparaison de la messe dans ses couplets profanes. Et ceux qui l'entendent et qui savent que je suis adonnée aux pratiques de dévotion diront qu'il chante ainsi pour me flatter. Ce barbier sans barbe veut-il se moquer de moi? Il ne manquerait plus que cela. Rose arriva dans la salle et quel fut son étonnement en voyant Marie Salade présentant sa tête au guichet et écoutant le chanteur avec toute l'attention dont elle était capable. Alors elle fit un signe de croix en s'écriant « Et elle n'a pas encore 13 ans, il n'y a plus d'enfant !» Elle prit Marie Salade par le bras, l'écarta de la fenêtre et s'y plaça au moment où Ramon, attaquant vigoureusement les cordes de sa guitare, entonnait bruyamment le couplet suivant. « Présente-toi à cette fenêtre, ouvre tes beaux yeux, leur feu nous éclairera, car la rue est bien sombre. » Et le jeu de l'instrument continua, plus vif et plus bruyant que jamais. « C'est moi qui t'éclairerai avec une torche de l'enfer !» cria d'une voix aigre et furieuse Rosa Mystica. « Libertin, profanateur, chanteur sempiternel et insupportable !» Ramon Pérez, revenu de sa première surprise, se mit à courir plus leste qu'un daim, sans tourner le visage en arrière. Ce fut le coup décisif. Marie Salanda fut renvoyée cette fois, malgré la timide intervention de Don Modesto en sa faveur. « Don Modesto, répondit Rosita, le proverbe dit « les charges sont les charges ». Et pendant que je suis chargé de cet effronté, j'ai à répondre de ses actions à Dieu et aux hommes. Eh bien, c'est bien assez pour chacun de répondre pour lui-même, sans avoir à se charger des péchés des autres. Du reste, vous le voyez, c'est une créature qu'il est impossible de mettre dans le bon chemin. Il suffit qu'on veuille la faire aller à droite pour qu'elle aille à gauche. »